musique. Inouï.
Caravana maximum. Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du...
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Pour Dawakal.
Vive mon grand lion. Vive le
soleil.
Vive
les oreilles.
Libre.
We'll be right back.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres. Les Oreilles Libres avec Yves-Marie Mahé aujourd'hui et notre invité Derek Wolfenden. Bonjour Derek.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, une émission autour du thème du survival. Tu vas nous expliquer tout ça, mais d'abord j'aimerais que tu nous dises un mot du premier morceau qu'on a écouté. La dernière fois que tu étais venu, nous t'avions brimé, nous t'avions empêché d'écouter Tangerine Dream. Voilà, c'est réparé aujourd'hui, mais peut-être ça a un sens par rapport au thème d'aujourd'hui.
Alors ça a un sens surtout par rapport au film qui s'appelle Sorcerer, le convoi de la peur, et la musique c'est Tangerine Dream. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est un film donc américain, donc en français c'est Le convoi de la peur, film de la fin des années 70. Et le groupe est allemand. Et en fait, c'est pendant qu'il faisait la promotion de son film L'Exorciste, Friedkin, dans la forêt noire, avait écouté ce concert qui l'avait hypnotisé des Tangerine Dream. Et il leur a demandé qu'il lui envoie une cassette avec son scénario. Il leur avait donné son scénario du convoi de la peur et qu'ils improvisent dessus, enfin qu'ils trouvent qu'ils écrivent de la musique en fonction de l'écriture. Et ensuite, au montage, lui, il a récupéré des morceaux et les a collés sur son métrage, quoi. Donc qui est un survival. Alors le survival, qu'est-ce que c'est? Grande question. Oui. Alors moi je pense que pour l'introduire, j'aimerais bien citer une très courte citation d'Henri Laborie en exergue de Mon oncle d'Amérique d'Alain René.
Oui.
Donc c'est la seule raison d'être d'un être, c'est d'être, c'est-à-dire de maintenir sa structure, c'est de se maintenir en vie, sans ça il n'y aurait pas d'être. Et donc on comprend bien par là que le survival c'est purement et simplement une question de cinéma, une affaire de cinéma, parce que le cinéma peut aussi bien se définir par le thème de la rencontre que par le thème de survivre au quotidien, par rapport à trouver un travail, nourrir une famille, comme supporter les pressions de la société ou de la famille. Et quelque part, même là, on peut parler quelque part de survival de manière très éloignée, mais quand même, il y a l'idée en tout cas qu'il y ait de la survie. Et ensuite, le survival à proprement parler, c'est donc un genre parasitaire qui vient parasiter des genres, que ce soit le western ou le film de guerre, parce que c'est des genres, à proprement parler, souvent catastrophiques.
Ouais.
Donc, qui dit catastrophe, dit danger de vie. Et le survival permet de rendre beaucoup plus abstrait ces genres qui sont déjà une forme d'abstraction, puisque c'est souvent des hommes dans une situation précise qui risquent leur vie et qui meurent petit à petit. Sinon, ce ne serait pas un film de guerre, ce serait L'île aux enfants, quoi. Donc, et du coup, le survival va se définir surtout à travers une poignée de films des années 30, mais aussi des années 70, donc les deux grandes périodes où on peut dire que c'est un genre, et alors qu'en fait c'est un sous-genre puisqu'il parasite, comme je l'ai dit, des grands genres, c'est vraiment les années 30 et les années 70. Voilà, et c'est les débuts du parlant avec La Patrouille perdue de John Ford, Four Frightened People, donc ça c'est plutôt un film exotique d'action, d'aventure de Cécile B. 2000, c'est Les Chasses du Comte Zaroff. Donc là, c'est l'homme qui devient un gibier pour l'homme et qui doit retourner les armes contre son agresseur sur l'île sur laquelle il a échoué. Voilà, et sinon, pour dire vite fait un mot très, très simple du survival, pour mieux le définir par rapport du coup aux autres genres qu'il parasite. Donc qu'est-ce que ce sous-genre devient? Ben, il devient en gros la situation donc catastrophique, voire même scandaleuse ou problématique, qui compromet un individu ou un groupe d'individus, les exposant par surprise à une extrême violence. Parce que sinon, ce serait, comme je le dirai plus tard, du survivalisme. Donc là, ce n'est pas le cas. C'est vraiment l'épée Damoclès qui leur tombe dessus au moment où ils s'y attendent absolument pas. Et d'où ce qui crée vraiment l'intérêt de ce genre périphérique. Et donc ce sous-genre, il est vraiment sauvage, cruel, et permet aussi au cinéma de faire table rase et de se renouveler constamment à travers toute une histoire du cinéma, même si ce thème est beaucoup moins présent au fil des années jusqu'aux années 70.
Alors, dans le petit texte qu'on a mis sur le site de Radio Libertaire pour présenter le genre, il y a un truc que tu évoques un petit peu là, c'est le fait que ce sous-genre qui parasitent d'autres genres. Donc quand tu dis ça, ça veut dire qu'il y a aussi bien du western que de la science-fiction, que de tous les genres qu'on imagine.
Film de guerre, ouais.
Film de guerre, voilà. A permis de créer des choses techniquement. Tu parles du tournage, par exemple.
Ah bah, alors, le tournage, il peut être... Ça, c'est intéressant, c'est que même en mode de tournage, souvent, les tournages sont problématiques parce que c'est dans des régions qui peuvent être reculées, mmh. où il y a beaucoup de... C'est la jungle, et donc on ne peut pas mettre trop... On peut pas, enfin, c'est problématique pour comment on appelle ça, brancher voilà, des instruments, des générateurs d'énergie, etc. Et même pour le confort des comédiens, ils sont plus trop dans un certain confort. Là, ils l'oublient, ils peuvent avoir des maladies, voilà, parce que c'est dans des régions qui peuvent être reculées, si c'est dans le cas d'une jungle, etc. Ouais. Pour l'authenticité de l'action, etc. Les comédiens peuvent vraiment se retrouver dans ces cas de figure-là. Ou sinon, même des enjeux très limités d'unité de temps et de lieu. Par exemple, Lifeboat d'Alfred Hitchcock, c'est sur un bateau de sauvetage. Donc c'est un huis clos dans un bateau de sauvetage. Ou sinon Buried, un film qui est sorti plus récemment, où c'est un mec qui est carrément enterré vivant, et tout le film il communique avec son portable et il doit communiquer avec son gouvernement pour qu'il le fasse sortir de là, mais avec une demande de rançon, parce qu'entre temps il y a le terroriste qui l'appelle, alors attendez-vous avec ta rançon, Donc voilà, il y a des enjeux très intéressants de limitation de temps, de lieux, etc., qui se rétrécissent en fonction des années. Donc c'est ça qui est intéressant. On passe du bateau de sauvetage de Hitchcock, de Lifeboat, donc en 1944, à Buried en 2012, je crois, ou 2009, je sais plus.
C'est
un cercueil. Voilà. Donc on voit comment c'est assez drôle quand même, comment ça a évolué.
Et donc tu dis que c'est un genre qui donc propose des innovations forcément techniques.
Pas forcément, mais souvent. De fait de cette épure, cette radicalité, pour être de plus en plus en osmose avec son sujet, l'équipe carrément se met entre guillemets en péril, en tout cas sort de son confort habituel. Voilà. Et ça, c'est vraiment, je pense, une donnée très importante et intéressante pour comprendre le survival, mais même au-delà du récit, quoi, même dans la manière de faire des films. Et même le dernier qui est très bien marché, ça reste quand même un survival, hein, c'est Gravity.
Ah oui.
Voilà, et là, bon, prouesse technique, etc. Et ce qui est très intéressant dans Gravity, c'est que où ça me parle, c'est que ça parle que de cinéma. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est en lévitation tout le temps, et c'est juste ça qui est stressant, en fait. En fait, on s'en fout du récit, mais vraiment le fait qu'elle ne soit jamais sur Terre, qu'elle n'est jamais solidement, ses pieds ne sont jamais implantés au sol, ça rend fou le spectateur.
Ouais.
Et cette idée, je la trouve assez vertigineuse, dans le sens propre comme dans le sens figuré, quoi.
Là, tu évoques un truc qui aussi m'interroge sur l'inconfort du spectateur par rapport à tous ces films-là. Hein. Alors, on va le voir, on va développer un petit peu tous les genres et tout ce que ça implique, mais moi, globalement, ce que ça implique pour le spectateur, c'est on flippe, quoi. On est mal. C'est comment tu vois ça?
Au cinéma, j'avais fait une interview avec Paul Schrader et il disait, en gros, c'est inintéressant de voir quelqu'un qui fait la même chose que toi au quotidien. Par contre, voir quelqu'un dans une situation extraordinaire, là, ça peut marcher. Ça peut être intéressant à tout niveau. Parce que c'est là où toi, tu vas te déplacer pour aller voir un film. Enfin, de manière générale, ce sera plutôt cet aspect-là.
Ouais, mais après, on fait n'importe quoi au cinéma. Hein. Je sais pas, moi, je pense à des cinéastes qui font des scènes tout à fait banales. Mais en quoi c'est intéressant le fait de voir des gens en danger? De quoi ça nous parle, en fait?
Ça nous parle surtout de notre confort à nous, dans une place de cinéma, ou bien au chaud, sur un siège, etc. Et ça nous montre aussi nos limitations physiologiques, notre limitation même politique, sociétale, par rapport à un pays où on est, et comment on est quand même bien loti, bien logé, etc. Et que tout d'un coup, de perdre tout ça, qu'est-ce qui se passe? Qui on est si on perd tout ça? Comment on peut rester soi-même? Et donc, quel est cet autre moi? Comment il va arriver à survivre dans cet aspect-là? Et est-ce qu'il va y avoir d'ailleurs un autre moi qui peut sortir de là?
La question que je pose aussi en disant ça, c'est est-ce qu'il n'y a pas une forme de sadisme?
Ah, il peut, bien sûr, mais alors ça, je renie pas du tout. Il peut carrément y avoir un sadisme. Oh, regardez comment je suis bien au confort de voir justement tous ces gens en danger. Mais en même temps, c'est tellement radical que je pense que le sadisme n'y suffirait pas forcément. Parce que heureusement, les bons survival que j'ai pu voir, il y a beaucoup plus de bons que de mauvais en plus. Et ça va beaucoup plus loin que ça, vraiment. Ça je trouve qu'au contraire, ils mettent à mal, où ils mettent à mal, c'est pas pour nourrir, pour, enfin, comment on appelle ça, satisfaire notre sadisme, c'est au contraire, c'est plutôt pour nous complexer sur regarder comment on a beaucoup de choses, mais qu'en même temps, c'est notre monde, mode de vie et notre monde est plutôt artificiel, superficiel. C'est aussi pour pointer du doigt ces éléments-là, souvent.
Bah, peut-être on va faire une première pause musicale, alors qu'est-ce que tu nous proposes ?
Bah, on peut écouter par exemple la musique de Survivance, en anglais c'est Just Before Dawn de Jeff Lieberman, et c'est de Brad Fidel, le musicien qui a pas fait beaucoup de grand chose, mais des très bons morceaux, dont Terminator. Moi je suis assez fan de la bande son de Terminator, et vous allez voir, c'est l'emploi du synthétiseur qui est assez moderne et assez chouette comment il est utilisé là, et c'est la fin du film, sans vous dire dévoiler la fin, juste la musique, voilà. Brad Fidel.
Thank you. Voilà, Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, les oreilles libres avec Derek Wolfenden à propos du genre, le survival et du sous-genre même, tu dis Derek. Alors ça, j'aimerais bien savoir pourquoi tu dis sous-genre.
Ben comme, enfin je sais pas, je crois que je l'avais dit, c'est, tu sais, c'est le c'est un genre vraiment parasite, c'est-à-dire il appartient toujours à un autre genre. Je pense que je connais qu'un seul titre de film qui puisse vraiment se définir presque pleinement comme un survival, et encore, c'est Deliverance.
Ah oui.
Voilà, des années 70, mais c'est le, après à chaque fois on peut y apposer, et même surtout le western ou le film de guerre. Mmh. C'est vraiment les deux grands, ah oui, genres sur lesquels ils se greffent, quoi.
Oui, oui. C'est-à-dire il y a des genres comme tu dis, western, film de guerre, et dans ces catégories là il y a des survival.
Voilà, ouais. Et c'est, ouais. Et le survival rend pour moi intéressant aussi bien un film de guerre, voilà, où ce serait une patrouille qui se ferait décimer au fur et à mesure. Mmh. Ou une autre type d'histoire, c'est au niveau de l'épure, justement, c'est que grâce au grand genre, ça permet de dénoncer une histoire, mais après il s'en débarrasse complètement. Le survival, c'est vraiment un parasite qui vient contaminer, mmh, et qui vient nous enlever tout ce qui est peut-être le surplus du film traditionnel classique de manière générale. Et je pense que Yves-Marie et moi, on est vraiment fans de ce sous-genre à cause de ça. Et je dis pas sous-genre de manière péjorative quand, ouais, je dis sous-genre. Ouais. C'est au contraire, c'est une sorte de genre périphérique. C'est pour dire justement, c'est un cinéma qu'on aime parce qu'il est périphérique à un qui est plus dominant. Mmh. Et des fois, il marche, ce cinéma. C'est ça qui est marrant. Presque même involontairement, ou sort pas du tout de manière préméditée, comme Deliverance au départ. En effet, il devait marcher parce qu'il devait y avoir Brando et Nicholson, mais il se trouve qu'au final c'était deux inconnus à l'époque. Il y en a un qui était pas trop inconnu non plus, mais c'était un jeune premier, c'est John Voight, ouais. Et l'autre c'était Burt Reynolds qui avait fait que de la télé, ouais. Donc c'était pas du tout prévu que ça marche, quoi.
Ouais, quand tu dis ça marche, c'est, ça a du succès,
ça, quoi. A du succès, ouais, et en, ouais, plus c'est très rare que les films américains que avec des mecs, des garçons, ils marchent. Il faut qu'il y ait justement, ouais, un compromis aussi féminin.
Je pense, en t'entendant parler, je pense à Rambo. C'est considéré comme un survival ?
Ah oui, oui. Et ce qui est intéressant, justement, à un moment donné, c'est ça qu'on aime bien aussi, c'est le genre qui se détraque ou qui dégénère littéralement. Et donc, dans Rambo, on voit un pauvre mec, un paumé, qui a vraiment pas l'air agressif, ouais, et c'est monsieur tout le monde. Et je sais pas si les auditeurs connaissent bien le film, à un moment donné, il revient du Vietnam, il va, ouais, chercher des nouvelles de son pote il apprend qu'il est mort, il erre un peu dans la ville et il y a un shérif qui lui dit dégage, on veut pas de toi, t'as l'air minable et tout, tu vas nous causer des problèmes, donc forme de racisme, etc. Mmh. Et à un moment donné, il l'accompagne même en voiture en dehors de la ville. Et sur la route, il se passe quelque chose, même dans le jeu de l'acteur, qui est vraiment passionnant. Ouais. Et comme quoi, Stallone, c'est vraiment un très très bon comédien. Et il vrille à ce moment-là sur la route. Il vrille, son regard vrille. Et là, il décide d'aller le faire chier littéralement le shérif. Mais ouais, juste par en résistant avec sa simple présence physique, pas du tout en allant se faire un hold-up ou braquer des passants ou des inconnus. Au contraire, juste, ouais, il revient faire acte de présence. Et là, c'est le dérèglement total du film.
Alors, bon, tu vois, on parle de Rambo dans notre émission, c'est un petit peu, peut-être ça va surprendre des auditeurs.
Mais le premier, au contraire du deuxième, il y a un regard sur, c'est comme s'il revivait le Vietnam, en fait. C'est, ouais, pas inoffensif aussi qui vienne de là, en fait.
Quoi. Tout à fait. Ouais.
Le deuxième est beaucoup moins critique, par contre.
Bah oui, oui, non, clairement. Ouais. Puis le troisième, je crois qu'il est anti-communiste. Enfin, bon, c'est de pire en pire. Mais alors moi, bon, voilà, on va peut-être, on a présenté, voilà, le genre. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui se cache derrière ça, selon toi?
Ce qui se cache, je pense.
De quoi ça parle, quoi, en réalité, quoi.
Bah, tout dépend de l'audace du réalisateur, mais pour moi, ça traduit, les bons survival traduisent vraiment d'une audace déjà formelle et plastique par rapport à ce qu'on a dit au niveau du scénario, qui devient de plus en plus épuré, même voire presque mécanique, voire presque ingrat. C'est de la mort, ou c'est, enfin, mm-hmm, ça affronte concrètement des choses que, en général, on prend de la fourchette et des couteaux, là, toc, toc, là, on y va avec plein les mains. Et c'est vraiment cette manière d'affronter aussi ce qui correspond pas du tout au cinéma, qui est fait pour nous manipuler, pour nous caresser dans le sens du poil, pour nous divertir. Là, tout d'un coup, c'est un divertissement qui est autre, qui se veut vraiment beaucoup plus organique, beaucoup plus violent, beaucoup plus frontal, beaucoup plus provocateur même aussi vis-à-vis de son spectateur. Et c'est en cela où je trouve que aussi il est ingrat, c'est là où ça fait sa beauté, en fait, à ce sous-genre, c'est que voilà, c'est dans sa dimension ingrate, quoi. qui résiste, quoi. Voilà.
Bah, c'est une caricature de la vie aussi, enfin, de la survie et de la vie, comment on peut s'adapter. Oui, ouais. Bon, là, c'est pour survivre, donc.
Oui, mais ce qui est drôle, c'est que justement, le survival ne parle pas non plus de survivalisme, quoi. Ils sont fous, parce que le survivalisme, il n'y a pas de surprise. Le survivalisme, on anticipe, on est prévoyant, et en effet, il y a le danger, on sait l'affronter. Dans le survival, le danger, il arrive, bam, comme oui. L'épée Damoclès, on ne s'y attend pas, quoi. C'est bam.
Ça. Alors, là, tu parles d'un truc, effectivement, en prévoyant cette émission, je m'étais dit, mais pour moi, le survival, je faisais une confusion sur laquelle tu m'as rectifié à de nombreuses reprises. Je voyais des reportages d'espèces de tarés américains en costume militaire là, qui sont blindés d'armes et de nourriture pour survivre, et effectivement. Quoi. Je me dis, mais de quoi on va parler dans notre émission et, de quoi ils proposent de parler, Derek? Mais tu m'as tout de suite rectifié, donc ça n'a rien à voir avec le survivalisme, effectivement. Quoi.
Non, parce que le survivalisme, justement, on attend. Ouais. Un danger dans le survival, on l'attend pas, il arrive, même dans un film de guerre, on peut pas mesurer que ça va être vraiment la merde dans cet endroit précis qui, souvent, dans les films, évidemment, il a l'air idéal, comme je sais pas moi, des films de guerre comme La Patrouille Perdue ou un autre film qui s'appelle Sahara. C'est un oasis, donc tout d'un coup, normalement, ça devrait être positif, un oasis tout pour une patrouille bien, où ils ont plus d'eau, quoi. Ouais. Et ben là, non, c'est là où ils vont se faire décimer, quoi.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Donc voilà, c'est. Bon, c'est là où aussi c'est intéressant, c'est marrant, quoi. C'est aussi le principe du film d'horreur. C'est l'endroit où t'es dans le confort, bah, c'est là où t'es le plus en danger, finalement. C'est la douche de psychose, ou la mer, où tu peux te baigner près de la plage, dans les dents de la mer. Enfin, tous ces lieux-là, c'est inverse.
L'autre réserve que j'avais par rapport à ta proposition, c'est effectivement ce survivalisme, mais là, je faisais une confusion, quoi, avec ces connards-là. Mais il y avait aussi le... Tu vois, dans des films que tu décris, c'est-à-dire dans lesquels un groupe de gens ou un individu vont se faire mettre sacrément en danger, je vois tous ces films plutôt liés à l'horreur, tu vois, Massacre à la tronçonneuse et tout ça. Et, enfin, il me semble, il y a toujours un arrière-plan moralisateur. C'est toujours des adolescents qui ont couché, en gros, qui ont fait des bêtises, à qui va arriver des horreurs.
Alors ça, c'est les mauvais films dont tu parles, ouais. mais les bons films, justement, comme Massacre à la tronçonneuse, c'est pas du tout ça, c'est comme dans Délivrance, d'ailleurs, c'est le rapport à le temps, et comme dirait Hamlet, est disloqué. C'est vraiment, il y a tout d'un coup, le film témoigne du temps, soit qui s'est arrêté, soit il y a un problème de jonction entre deux temps différents, c'est-à-dire le temps du Far West, tout d'un coup, donc c'est les rednecks, c'est l'Amérique profonde, ouais. Et c'est petits citadins qui arrivent et qui sont nés à nez avec une autre époque, 100 ans en arrière.
Ah oui.
Et c'est ce conflit-là qui dégénère totalement.
D'accord.
Et c'est aussi voilà, la critique aussi de l'Amérique purement capitaliste qui transforme l'énergie des jeunes en
machine à produire.
Voilà, exactement. Ouais. En pur produit de guerre, etc. Et là, c'est le côté dégénéré de Massacre à la tronçonneuse. Jean-Baptiste Auré le dit très bien, c'est que la dernière image où on voit Leatherface avec sa tronçonneuse, il utilise sa tronçonneuse dans le vide. Il a besoin de gaspiller cette énergie. On l'a tellement éduqué pour tuer ou pour travailler jusqu'à l'abrutissement qu'il lui faut quelque chose, il lui faut tout le temps quelque chose à tronçonner, quoi. Et c'est de ça dont parle vraiment Massacre à tronçonneuse, en même temps que c'est une variation déjà de psychose, mais dans la cellule familiale, et non plus juste le père et le fils, la mère et le fils dans Psycho, et aussi le traitement du western avec ce soleil de plomb qui tape tous les personnages, ouais, etc. Ouais. D'où Redneck, c'est-à-dire le cou brûlé, c'est insolation, c'est voilà tout ça, quoi.
Alors, en t'entendant, en ayant discuté avec toi avant, je crois que tu m'as parlé d'aspect mystique. Alors, c'est quand même bizarre parce que quand on parle de Rambo, Massacre à la tronçonneuse, c'est quand même pas des films a priori où j'aurais pensé qu'il y a quelque chose de. Pour moi, c'était brut, quoi. C'était cash, c'était. Ça allait pas très loin. Toi, tu prétends qu'il y a des aspects mystiques, voire et fantastiques dans le survival. Est-ce que tu peux développer ça?
Par exemple, dans La Patrouille Perdue, c'est pour moi un film vraiment fantastique qui provoque, et le fantastique et Predator en est vraiment la suite, si tu veux. C'est-à-dire que les personnages, ils sont... C'est tellement épuré, il y a tellement des sortes de chants contre chants, il y a tellement des indices de mise en scène, etc., que tout le film devient, relève vraiment du fantastique dans les jeux de regard, et puis même en fait, l'ennemi n'est jamais montré, sauf à la fin, mais quand il est montré à la fin, on n'y croit pas, en fait. Et le réalisateur non plus, d'où on voit le pourquoi Predator a été fait aussi. C'est comme la suite, la prolongation de ce type d'idée-là, quoi. Mmh. Et le mystique, si, la question du père dans Rambo est très importante.
Ah oui.
Il est complètement anormal, ce personnage, parce que son père, c'est l'armée.
Ah oui. Ouais, c'est grave là.
Et c'est là où c'est très beau d'ailleurs. À la fin, c'est un bébé, c'est un avorton qui pleure. Et il y a le père, le militaire, le prend dans ses bras. Et on voit qu'en fait, il est complètement fou. C'est un psychopathe.
C'est un névrosé. Quoi. Ouais.
Voilà, c'est un vrai névrosé. Quoi. Ouais, et il le joue d'ailleurs comme un névrosé, hein, Stallone. Il joue pas du tout ça de manière à qu'il soit émouvant comme Gary Cooper dans Le train sifflera trois fois ou autre grande figure de starification comme ça. Pas du tout, quoi. Et mais sinon, on peut parler, si tu veux, de Délivrance, là, j'ai entendu, de Survivance, et ouais. Après j'en parlerai, si tu veux, c'est Survivance de Jeff Lieberman, c'est le morceau que tu as failli mettre après.
Alors, tu me dis Survivance. Bien sûr.
Before Down. Ouais,
on écoute ça, alors. Donc c'est quoi, est-ce que tu peux présenter, par contre?
Alors, Just Before Down, c'est un film des années 80, c'est très proche de Délivrance. Voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Massacre à la tronçonneuse, des jeunes qui vont se faire trucider par, on va dire, des rednecks, voilà.
Et son titre français, c'est Survivance.
Le titre français, c'est Survivance, et la musique, c'est de Brad Fiedel, voilà, c'est le compositeur de Terminator, entre autres.
Voilà, on continue avec le survival, on va changer un petit peu de thème, si tu veux, Derek. Alors, pour parler de ce que j'évoquais un petit peu précédemment, intuitivement, je dirais, cette histoire de morale, un petit peu, quand je parlais des films où des jeunes vont se faire massacrer parce qu'ils ont, bon, ils ont couché, ils ont bu, ils sont drogués ou je ne sais quoi, y a une morale... Bah, dans certains genres, tu disais que c'était les mauvais films, mais est-ce que tu peux expliquer ça
On va prendre un choix encore plus gros, et on va dire énorme. On va prendre deux films assez récents, c'est Red State de Kevin Smith, donc le réalisateur de Clerks, et Slavage, film britannique de Lawrence Gough. Où en gros c'est carrément le gouvernement l'ennemi, quoi. C'est le gouvernement qui dit n'importe quoi et qui tue carrément leurs propres citoyens. Donc après, il est plus du tout là pour nous protéger. On le savait plus ou moins déjà, mais là c'est complètement frontal. Le film ne fait que ces deux films ne font que le démontrer, quoi.
C'est beaucoup présent aussi dans les films post-apocalyptiques. Ah oui. dont parfois, en fait, quand il se passe dans l'unité de lieu, en fait, c'est souvent le cas. Je sais plus, je crois qu'il y avait un film que tu avais passé. Non, c'est pas le film de Watkins, c'est un film de guerre. Un film. Merde, c'est quoi le titre ? Où il y a le film anglais où il y a. Où tu vois les gens survivent à un cataclysme nucléaire.
La bête.
Ouais. Et l'ennemi, en fait, c'est clairement l'État, en fait, qui leur donne des conseils qu'il faut surtout pas écouter, en fait, s'ils veulent survivre.
Ouais, de toute façon, mais même eux, ils en payent le prix dans leur imbécilité, en fait. C'était même ça, limite le propos du film. Ils en sont même victimes eux-mêmes, en fait, quoi. Mais en tout cas, ouais, c'est toujours sur cette inversion, comme j'avais dit tout à l'heure, le temps disloqué. C'est les déplacements incongrus d'un genre à l'autre. Par exemple, le film policier, on ne s'attendrait pas à ce que ce soit un survival. Parce qu'on du coup, dans notre imaginaire, c'est plutôt la nature. Ben non, il y a urbain aussi, il y a les films urbains qui ne sont pas forcément du tout de droite, comme on pourrait le penser, comme Le Justicier dans la ville, etc.
Ah oui, ben ça si, quand même, non ?
Comment ?
Charles Bronson, quand même.
Non, il est fou. Pour moi, il est fou. On l'a revu avec Yves-Marie. Et c'est le deuxième qui pose problème. Mais le premier, il est complètement névrosé.
Donc, on peut pas.
L'identification, il faut être taré pour déjà s'identifier avec un névrosé. Donc,
c'est pas un survival, c'est lui qui bute tout.
Non, de toute façon, en plus, ce film, ce n'est pas un survival. Mais c'était pour parler de Warriors, par exemple. Ouais. Parce que Walter Hill, voilà, c'est quelqu'un qui est très sensible au survival. Pourquoi ? Parce qu'il est très sensible à l'âge d'or du cinéma et notamment le western. Et c'est quelqu'un qui l'a décliné, le survival, aussi bien dans la production, c'est lui qui a produit Alien. Mais aussi dans ses propres films, que ce soit donc Warriors en milieu urbain ou que ce soit Sans Retour dans les bayous avec la garde nationale américaine qui évoque d'ailleurs un peu le Vietnam mais en Louisiane quoi. Donc c'est un film vraiment passionnant à plus d'un titre. Et lui vraiment, même dans ses autres films, on peut voir, on va dire, après plus de manière atmosphérique, une idée de survival. Moi, je pense à lui, par exemple, le gang des frères James, où le danger pour un homme de survivre à ne pas se maquer avec une nana quand on est hors la loi, sinon on meurt, quoi. Et vraiment, le film, il parle de ça aussi. Donc, on peut même téléporter le survival dans son cas jusque-là, quoi. On peut vraiment le... Ensuite, il y a aussi l'enfer social. Pour moi, c'est vraiment intéressant dans le survival. Donc voilà, c'est par exemple le SDF, ouais, dans des films qu'on pourrait se dire limite de droite, comme je sais pas, Chasse à l'homme avec Jean-Claude Van Damme de John Woo. Et ben c'est quand même intéressant. C'est un SDF qu'on pourchasse. Donc déjà, la première logique, ce serait de droite de se dire ça, mais en fait le SDF retourne contre son adversaire, parce que finalement leur adversaire, ils ont toutes les grandes armes, etc., donc c'est des grands matérialistes, alors que le SDF n'a rien. Donc lui, ce qu'il doit procéder, c'est le détournement, et les arts martiaux, c'est l'art du détournement. Donc c'est là où ça devient vraiment intéressant par rapport à la question même politique liée au SDF. D'ailleurs, deux films coup pour coup sont sortis quasiment la même année, c'est donc Chasse à l'homme de John Woo, avec Jean-Claude Van Damme, et l'autre c'est Surviving the Game, d'Ernest Dickerson, avec Ice-T, voilà, en plus lui encore plus typé avec ses dreads, etc., voilà, et c'est vraiment des films passionnants à plus d'un titre, quoi. Et ensuite, même chez Walsh, déjà, dans Aventure en Birmanie, film de guerre, qui aussi évoque beaucoup Predator, qui va certainement s'en inspirer, il y a aussi l'idée où il y a le reste d'un peloton qui survit, c'est grâce à la désobéissance. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans le film, à un moment donné, on n'en parle jamais. Enfin, j'ai lu pas mal de choses sur le film, ils n'en parlent jamais, mais il y a un montage parallèle assez violent entre ceux qui ont envoyé cette patrouille-là en pleine jungle, qui prennent le café, qui prennent leur temps, et les autres qui crèvent au fur et à mesure. Il y a une sorte de conflit de confort hallucinant, quoi, entre ceux qui sont vraiment au péril de leur vie et eux, les autres qui sont au-dessus et qui sont en plein confort. Ils prennent le café, ils prennent le temps, ils prennent des petites décisions, mais ils prennent vraiment leur temps, quoi.
T'as d'autres exemples comme ça de subversion, ça nous intéresse dans notre émission et puis sur notre radio, peut-être des films qui ont eu un succès populaire et qui véhiculaient, selon toi, et ça j'y reviendrai après, des valeurs qui nous intéressent, quoi.
Alors pour moi c'est presque inconscient.
Ou des critiques de valeurs contre lesquelles nous sommes. Tu parlais du gouvernement, de l'État, tout ça.
C'est plus vraiment le gouvernement, mais pour moi c'est abstrait et c'est peut-être même moi qui fabule, mais en même temps je pense pas, c'est Alien 3. C'est Alien 3, donc reprend l'idée du premier, donc un extraterrestre prédateur qui vient décimer cette fois-ci une prison. et ils sont tous, toute la lumière du film, toutes les ambiances du film, moi, me font vraiment penser à, je sais pas, moi, une usine à voiture à Détroit dans les années 70. Ouais, ouais. En plus, il y a beaucoup de présence de noirs, etc., américains, la lumière assez orangée, on dirait, même la manière dont est traité l'alien, on dirait une carrosserie aussi. Mmh. Même, il y a beaucoup de ferraille, de chaînes dans le film, alors qu'on est dans un film futuriste, soi-disant, et en fait, on est carrément dans un entrepôt, quoi, enfin, où ouais, on bosse, ouais, quoi. Ouais, ouais. Et pour moi, tout le film, c'est, regardez, c'est l'enfer et la survie au quotidien, pour moi, l'idée du film, quelque part inconsciente ou consciente. Je sais pas, ça sera un mystère, j'aimerais vraiment poser la question un jour, Inch'Allah, à David Fincher. Et vraiment, j'aimerais vraiment lui poser...
tu peux toujours attendre, hein, mon gars. T'es pas prêt de le voir. Ouais. Bon, pardon, parenthèse. Ouais.
Et pour moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup cet aspect-là. Mais t'as aussi The Mangler de Toby Hooper, où t'as une sorte de grosse essoreuse qui vient détruire, enfin, qui vient massacrer des ouvrières. Voilà.
Ouais. Mais alors, tu l'évoques toi-même. Est-ce que tu affabules pas toi-même? Est-ce que c'est pas, peut-être, je sais pas quoi, ton amour du genre ou je ne sais quoi qui fait que tu vas trouver des vertus sociales contestataires dans des films qui sont absolument. Sans y réfléchir, à vrai dire, hein, c'est vrai, que je perçois comme des films de cons de droite, quoi.
Pour Alien 3, je pense pas, non, parce que t'as quand même une étrangeté tout le long du film, tu te dis que t'es dans un film de SF.
Ouais, je connais pas, c'est vrai.
T'es un film de SF. Ouais. Et quand tu vois la déco de la prison, tu te dis que t'es dans une prison. Enfin, voilà, à peine un peu futuriste, et encore, elle est tellement crade, etc., tu dis qu'elle est même encore plus sale qu'une vraie prison, donc on se dit qu'elle est... Ils vont même dans le misérabilisme social. C'est là où je trouve que le film devient intéressant, en fait. C'est qu'on est dans la SF pour être encore plus frontalement dans une forme de réalité, en fait, même si elle est allégorique, elle est quand même présente. Donc, même si j'exagère un peu, peut-être pas tant que ça, au fond. Je pense pas tant que ça. Mais et c'est là où le film, pour moi, m'intéresse particulièrement. Après, si je voulais que je continue sur la moralité à rebours et les enjeux sociaux subversifs, tout simplement, il y a aussi la réhabilitation des Indiens. Enfin, pour moi, c'est intéressant aussi comment, par exemple, même un film où il y a encore une star avec plein de maquillage dessus, comme Bronco Apache, il y a des scènes où on se dit, à un moment donné, c'est un Indien donc très agressif contre le système blanc, et à un moment donné, il va en ville, en fait, un peu habillé, façon civilisée, etc. Mmh. Et en fait, on a tout de suite une panique pour lui. Mais est-ce qu'il va survivre? Ouais. Et ça, c'est marrant. Et même lui, à un moment donné, non, à un moment donné, il est obligé de fuir, parce que sinon, il va se faire lyncher, tout simplement, quoi. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours plus d'affection pour Aldrich, parce qu'au lieu de prendre un Indien non acteur et de le diriger comme un gibier ou comme un du bétail façon les Cheyennes de John Ford, lui il préfère honnêtement prendre un acteur star, etc.
C'est
mais
qui,
au moins
en l'occurrence, c'est
Burt Lancaster. Ouais. Et il va prendre une vedette et il va en faire vraiment quelque chose, il va vraiment le rendre agressif, etc. Et pour moi, Aldrich, on le dit pas assez, et c'est un cinéaste passionnant sur justement la figure du protagoniste. C'est toujours des protagonistes qui sont pas si plaisants, qui sont même rarement plaisants, sauf avec un malentendu comme dans Les Douze Salopards. Mais sinon, c'est toujours des personnages vraiment anti-héroïques, pathétiques, grotesques, vulgaires. Enfin, trop tard pour les héros, même dans le titre, ça le dit, quoi. C'est trop tard pour les héros, dans son film, il n'y en a pas, quoi. Ou s'ils sont des héros dans le cadre de ce film de guerre, c'est sans le faire exprès, quoi. C'est vraiment, merde, je suis héros, ah ouais. J'ai vraiment pas fait exprès, quoi. Limite, même ils sont lâches et deviennent héros dans leur lâcheté, quoi. Enfin... Ouais. Et c'est là où la question se pose vraiment. Enfin, le vol du Phoenix, qui est un autre survival dans le désert, donc de Robert Aldrich. La question, c'est pareil. James Stewart, il est mais insupportable pendant tout le film. Il est génial pour ça dans ce film. Il est vraiment insupportable. Il est obtus. Il est agressif. Il est limite raciste avec un Allemand, etc. Et finalement, c'est l'Allemand qui va les sortir de là, quoi, en recomposant cet avion qui est tombé en rade dans plein désert. Et donc après, je peux toujours en citer d'autres. Il y a aussi le prétexte pour des conflits ou des ruptures de classe sociale. Donc le plus connu, c'est Sa Majesté des Mouches, d'après William Goldin. Et là, voilà, c'est pareil, ça explose les classes sociales, alors que ce sont des enfants. ça explose parce qu'ils reproduisent bêtement les classes sociales. T'as Walkabout, film donc du cinéaste britannique Nicholas Rogue, mais je crois que ce film est australien parce qu'il se passe en tout cas en Australie et qui porte le nom d'un rite initiatique, donc Walkabout pour un aborigène. Et en fait, voilà, t'as la sœur et son petit frère qui sont égarés dans un désert comme dans un conte parce que le père était attiré par la petite, donc il s'est flingué ne supportant pas être attiré, mais en même temps les laissant livrés à eux-mêmes en plein désert. Et là, je perds le fil.
une petite musique.
Bah, si vous voulez, ouais.
Qu'est-ce que tu proposes?
Peut-être comme parler pour faire accord avec Robert Aldrich, peut-être parler de Southern Comforts sans retour de Walter Raycooder, la musique de Raycooder.
Voilà. Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres avec aujourd'hui Yves-Marie Mahé et Derek Wolfenden qui nous parlent de, du sous-genre, le survivalisme, un sous-genre...
Non, le survival.
Oh bah tu vois, pardon, oh là là, bah tu vois, excuse-moi. Mais oui, oui, hein, comme quoi j'ai du mal. Le survival, donc il y a des, bah, des implications qui nous intéressent, nous, sociales. Et alors on a un petit peu parlé du social, du monde du travail par exemple. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la famille, puisque nous sommes en pleine période de fête et que nous nous apprêtons tous à subir Noël. J'aimerais bien que tu parles de la famille.
Bon bah pour dédicacer un ami qui a fait un jeu de mots avec Home Sweet Home, il a fait Home Sick Home. Donc voilà, au lieu de dire... maison, ma chère maison, je suis content d'être rentré au bercail, quoi. Là, c'est la maison malade, quoi.
Ouais, bah oui.
Voilà, et c'est, bah, y a vraiment beaucoup de films. Tu parlais tout à l'heure de Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper. Bah, alors là, si tu trouves une famille plus dégénérée et plus tarée que ça, il faut me le dire, quoi. Mais là, on a vraiment la cellule familiale qui pose problème.
Ouais.
Parce que souvent, le film américain, même son âge d'or, communique l'idée que le danger est à l'extérieur de la famille, de la cellule familiale.
Ouais.
Et il y a même le cas de figure de Swiss Family Robinson, là, de Ken Anakin, des productions Disney, qui est insupportable pour ça, quoi. C'est carrément s'abstraire de la réalité où on est. C'est notre cellule familiale est plus forte que tout, mais jusqu'au ah oui. mensonge le plus abrutissant, et même jusqu'à un enfant qui, alors ça c'est complètement phénoménal, qui pose pendant tout le film il fait vraiment des grosses bêtises qui compromettent la vie de la famille,
ouais.
et il est jamais puni, c'est normal, c'est génial, il est maître,
ça entre nous, bah ouais,
il est le maître, il est vraiment vrai, et c'est assez angoissant, et là tout d'un coup les années 70 s'opère ce glissement où en effet là ce n'est plus les étrangers le problème, c'est nous-mêmes, quoi. C'est notre cellule familiale et c'est nous-mêmes.
Est-ce que tu crois que c'est en relation peut-être avec des théories psychanalytiques, parce que bon voilà, la psychanalyse nous apprend que nos problèmes personnels de névrose et tout ça sont quand même en grande partie dus au passif familial. Est-ce qu'il y a un rapport selon toi?
Il me semble que oui, mais alors il faudrait que je réactualise mes recherches, mais quand j'avais étudié sur le pour l'université, là, le psychopathe au cinéma, et je sais que dans les années 70, il s'est passé beaucoup de choses, mais bon, ça date depuis un certain moment, mais je sais qu'il y a la notion, par exemple, de psychodrame qui s'est, entre guillemets, un peu démocratisé. Il y a eu aussi beaucoup de progrès au niveau de la psychanalyse, il y a eu beaucoup aussi de... On s'est rendu compte comment on traitait les fous, quoi, que c'était pas normal, les traitements, au niveau sanitaire, etc. Enfin, au niveau du grand public, il y a eu tout d'un coup une sorte d'ouverture aussi, quoi.
Ouais.
De toute façon, les années 70 sont connus pour ça, c'est vraiment l'explosion aussi des marginalités, comment on les traite, etc., quoi. Donc, que ce soit les Noirs américains qui se révoltent avec les Black Panthers, ou que ce soit les Indiens, les Portoricains, enfin, tous ces groupuscules qui, tout d'un coup, ont fait face au gouvernement, voilà, c'est vraiment dans l'air du temps, quoi. En tout cas, voilà, l'enfer familial, c'est là. Et même Carrie, hein, il est connu pour aussi...
rappelle-moi, c'est...
De Palma, le rapport à la mer. C'est un film très important sur le rapport à la mer et aussi, d'après Stephen King, la fille qui a des pouvoirs télékinésiques là, et qui se fait chahuter à l'école, mais aussi en famille avec sa mère complètement tarée. Enfin voilà, je pourrais t'en dire plein d'autres qui ne sont pas des survival comme l'Exorciste. Donc voilà, c'est aussi bien présent dans le survival que dans tous les films d'horreur contemporains. De cette époque, quoi.
Donc critique de la de remise en cause de cette hégémonie qui est une valeur d'ailleurs américaine et puis qu'on pas seulement américaine qu'on revoit surgir en ce moment parmi nous. Tiens, ça me pose justement cette question. Est-ce que toute cette valeur critique là qu'on voit dans les films de survival dont tu parles, on voit qu'aujourd'hui il y a donc à l'époque, c'était à rebours de ce qui se faisait dans le cinéma d'Hollywood, mais est-ce que tu ne trouves pas qu'aujourd'hui, il y a un rebours du rebours ? C'est-à-dire que dans la pensée actuelle, on voit que les histoires de... Comment ça s'appelle ces conneries-là ? Ceux qui défilent là, contre les homosexuels, à la manif pour tous, soi-disant pour tous. Est-ce qu'il n'y a pas un retour, justement, à ces valeurs-là, quoi ? Et comment ça se traduit dans le cinéma ? Et comment, éventuellement, ça va se contre-traduire à nouveau dans le...
La chose qui marche toujours le mieux à un moment donné, et qui marchera toujours, et c'est triste à dire, mais c'est toujours de dire à travers la télé, pour pas qu'on se révolte, on nous dit qu'à l'extérieur c'est pire.
Oui, bah
donc
oui.
Voilà, ça c'est le principe de base qui n'est pas lié que à notre société, sauf que là en effet on en arrive vraiment à un point je pense qu'on a rarement atteint quoi, mais en tout cas voilà, ça existe depuis toujours, ou avant la télé c'était la radio, j'en sais rien, enfin mais en tout cas voilà, c'est aussi pour cacher entre guillemets sa merde aussi que de montrer la merde des autres quoi, voilà quoi.
Et alors, on parlait des années 70, et évidemment, on relie ça à la, entre guillemets, libération sexuelle. Est-ce qu'il y a aussi des films où ça s'est mis en avant ?
Oui, il y a un film qui s'appelle La Traque, là, de Serge Leroy, où c'est un personnage qui est violé, pas par une famille, mais par... elle se défend contre son agresseur, et son, du coup, le frère de l'agresseur embringue d'autres personnes pour exterminer, en fait, cette femme-là. Mais il y en a... Enfin, celui-là, il ne rentre pas vraiment dans le...
Non, c'est
dans,
plus dans l'enfer le genre, social, c'est-à-dire, c'est... mais il est important de le citer, parce que c'est quand même un des rares films français où vraiment on peut rattacher au survival. Et c'est en fait, c'est un personnage donc, féminin qui se fait violer par un mec, mais en fait, elle se fait, entre guillemets, violer par tous les complices de cet homme-là, qui est joué par Léotard.
Oui, bien sûr.
Et qui est joué par des grands acteurs comme Jean-Pierre Marielle, donc Léotard, comme Michael Lonsdale, je crois, comme enfin il y en a plein, je vais pas tous les citer.
Des acteurs
citer,
oui, qui sont sympathiques, je pense que ça, voilà. Ça a une importance dans le film en fait.
Et d'autant plus sympathique que la mise en abyme est judicieuse, parce qu'ils jouent aussi des valeurs importantes et symboliques et sociales et politiques de leur bourgade. Ils ont tous des rapports où il faut le matu social est important. Ouais. Donc aussi bien ce mec a violé, on va quand même le soutenir parce qu'on fait de la partie de chasse avec lui. Et puis on est sexiste quand même, elle c'est une petite étrangère, qu'est-ce qu'elle fout là, etc. Elle va pas nous foutre dans la merde, elle on la connaît pas quoi. Et c'est vraiment terrifiant, et c'est vraiment un film très, très, très bien et connu.
Comment c'est ?
Alors La Traque de Serge Leroy, d'accord. Et donc l'actrice est jouée par Mimsy Farmer.
Oui, d'accord. Voilà,
qui est littéralement le gibier quoi, du film.
Ça se termine pas dans la flotte hein.
Si. Ouais, très proche de la dernière maison sur la gauche. Il y a vraiment cette même situation.
J'ai vu quand j'étais môme, ça m'avait beaucoup marqué ce film.
Et du coup, c'est hérité directement des chasses du comte Zaroff, en fait, aussi.
Ouais. Ça m'évoque un petit peu ce que tu racontes. Certains films de... Alors, c'est pas du survival, mais certains films de Chabrol aussi. Hein.
Oui. Oui, la grosse classe bourgeoise qui est vraiment cruelle et qui peut en passer à l'acte, comme, je sais pas, une certaine de manière comme la bureaucratie nazie, limite. Enfin, il y a quelque chose de très proche, quoi.
Ouais. Et, alors, t'as évoqué un truc, c'est que t'as parlé d'un des rares films français. Donc, je comprends que le survival n'est pas un truc français, que ce serait plutôt un truc américain.
Oui, parce que c'est eux qui jonglent le plus ouvertement et avec, faut le dire aussi, avec le plus de talent, puisque c'est eux qui ont le plus défini aussi la notion de genre. Et le survival jongle sur la notion de genre, comme on l'avait dit au début de l'émission. Mmh. Et donc, de fait, il y en a des fois déjà beaucoup plus de films tout court qui sont faits là-bas, et en plus de survival, bon, là, c'est encore plus flagrant, quoi. Mais après, il y a des films intéressants et français, je sais pas, qui sont pas géniaux, mais qui sont quand même intéressants, comme Vertige d'Abel Ferry récemment. Enfin, récemment, il y a maintenant peut-être presque 10 ans. Mais ouais, il y en a quand même de temps en temps des poignées de films qu'on peut voir, qui sont. Voilà.
Et dans d'autres cinématographies
Alors, il y a dans d'autres cinématographies.
Anglaise forcément, mais
ouais, anglaise. Mais si j'en avais trouvé en plus, si par le biais de Lozé et Pinter, Pinter, moi c'est une occasion, il va nous sauver, Harold Pinter. Et voilà, alors lui, il est incroyable. C'est un très très grand dramaturge, mais qui a vachement influencé aussi bien directement le cinéma, donc à travers Joseph Losey par exemple, qui l'a carrément engagé pour faire des scénarios, ou même Paul Schrader, mais aussi bien même indirectement. Voilà, et je sais pas, il y a des... Donc, par exemple, John Boorman pour Point Blank, et ensuite pour même jusqu'à Délivrance, va s'inspirer de la sécheresse du ton de Pinter. Ouais. Voilà, de son Pinter, c'est vraiment un dramaturge qui a explosé dans les années 60, et qui explose aussi bien la cellule familiale que la manière de parler, de la concision des mots, mais qui, donc, du coup, tout le film d'horreur va quelque part lui devoir quelque chose, mais 10 ans après. Et je pense que même les films d'horreur qui n'ont pas forcément connu les pièces de Pinter, ça a tellement été un bouleversement culturel dans les années 60 que je pense qu'ils ont été contaminés, qu'ils le veuillent ou non, par son univers.
Et il aborde le cadre du huis clos, ce qui était...
Je fais une association d'idées, vous allez me dire si c'est judicieux ou pas. Ce que tu racontes, ça m'évoque. Je pensais à Thomas Bernard, et puis de là, j'ai pensé à nos queues. Le...
Justement.
Ouais,
juste... Et bah, je suis d'accord. Et bizarrement, à chaque fois que je lis des articles...
Alors, citons le film.
Funny Games.
Funny Games, ouais.
Et à chaque fois que je lis des articles sur Funny Games, étrangement, ne parle pas de, du théâtre de la menace, que ça s'appelle comme ça, de Harold Pinter. Enfin, c'est le genre, entre guillemets, qu'il a créé, le théâtre de la menace. Et pourtant, la scène, moi, qui... Pour moi, c'est purement du Pinter, et ça, je suis sûr qu'Haneke en est bien conscient, parce qu'il est trop intelligent et cultivé pour ne pas connaître Pinter. C'est la scène des œufs. Dans Funny Games, toujours, là, la fameuse scène des œufs, où là, il n'y a aucune agression physique, ou voilà, c'est juste, il fait tomber des œufs, il lui redemande des œufs, et que nous, ça nous rend dingue. Vraiment, ça nous rend dingue.
Ah oui, c'est
ça, c'est vraiment de l'écriture de Pinter. C'est-à-dire, avec rien, il nous crée une menace, une tension insupportable.
Et il y a un film intérieur de 10-20 ans, enfin, qui est fait dans les années 70 par Les Visiteurs, en fait, qui est très proche aussi. Où c'est quelqu'un qui est dans sa famille et il y a deux personnes qui reviennent du Vietnam. Et qui,
un film de qui?
Delia Kazan.
Delia Kazan. Ouais. Et il y a ce même huis clos et cette tension, en fait.
Mmh. Et alors, ça, par exemple, Funny Games, c'est un survival.
Ah oui, pour moi, oui. Mais justement, là, il va jouer de manière. Alors. Moi, j'aimerais vraiment. Enfin, je pense que je pourrais me disputer avec Haneke parce que j'adore son film, mais pour moi, il recrée une violence en désamorçant les clichés du genre, que ce soit le survival ou le film d'horreur. Et pour moi, il crée une nouvelle violence, qu'il le veuille ou non. Enfin, c'est génial, ça met mal à l'aise le spectateur et tout, mais ça fait partie aussi des règles du genre, comme Massacre à tronçonneuse a mis mal à l'aise à une époque, ou même Cannibal Holocaust sous ses grands films. Et il y a Eden Lake. Également, enfin voilà, Eden Lake, il met mal à l'aise et pourtant il a pas la prétention arrogante de faire un film anti-cinéma, quoi, voilà, enfin, qui va nous faire donner des leçons de morale. Moi, je trouve qu'il crée un film d'horreur, mais magnifique. Funny Games, pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre, mais j'arrive pas à l'entendre comme un film théorème, etc. Non, pour moi, c'est une pure fiction qui a digéré juste aussi bien Pinter que le cinéma d'horreur de la dernière maison sur la gauche ou, je sais pas, d'autres films de cette époque-là, de cette période en tout cas. Quoi.
Peut-être pour terminer avec ces histoires de moralité à rebours et tout ça... Dernier thème que tu avais suggéré d'aborder, c'est le fait de se dépasser, de se perdre. Est-ce que tu peux, en deux mots, et puis après on écoutera Alien, justement, tiens, puisque ça fait partie d'un extrait de la bande originale de Alien. Ça signifie quoi, en fait, pour ça,
Pour survivre, souvent dans les films, justement, c'est une manière de dramatiser l'action simple humaine et de la transcender. Bah pour survivre, on est obligé de se sortir de soi, quoi. Enfin, d'être un autre soi, en fait. Ouais. Sinon, on ne survit pas. C'est à un moment donné, en société, on va déléguer. Bon, j'irai demain à la poste ou j'irai demain faire ci. Bah, là, dans un cadre qui nous est étranger et qui nous est problématique, ça nous tue, tout simplement. Et en gros, souvent, les survival énoncent cette idée-là, qu'on est obligé de se dépasser, même de se faire violence contre soi-même. On devient nous-mêmes un danger en étant bourgeois, on désamorce nos habitudes bourgeoises. Et le survival demande ça pour qu'on survive à ça, en fait. Quoi. C'est intéressant, il y a survivance. Donc, Just Before Dawn, on a fait écouter aux auditeurs la musique tout à l'heure. L'héroïne, c'est très marrant, elle est conservatrice. Voilà, et c'est elle qui va pourtant survivre, alors que tous les autres, ils sont un peu tout cool, etc. Et elle va survivre, pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure du film, en fait, elle va se détendre.
Ah oui.
Et en même temps, elle va se détendre au fur et à mesure qu'elle va être traumatisée en perdant les proches autour d'elle. Et ce qui est super intéressant, et là, c'est une idée génialissime du cinéaste Jeff Lieberman, donc un film de 80, c'est d'avoir transformé, elle se maquille alors qu'elle sent un danger, et nous aussi, on sent le danger, et elle se maquille comme si elle était complètement tarée, mais elle se maquille comme Blondie qu'on écoute au début du film, elle se maquille, mais comme d'une manière presque tribale. Donc elle transforme un maquillage dit civilisé occidental en quelque chose de tribal. Et en effet, à la fin, elle se rue sur le tueur, alors qu'il y a son petit ami qui fait rien, il est complètement tétanisé par la peur, et je dis pas la fin, mais elle va faire quelque chose d'assez hallucinant pour un film de ce type là quoi, voilà.
D'accord. Bon, en gros, genre de droite, si vous voulez survivre, bah, devenez de gauche, quoi. voire même d'extrême gauche. Est-ce qu'on... Alien, deux mots sur Alien dans ce cadre-là?
Alors Alien, c'est la musique d'un compositeur que je trouve vraiment génial et qui est très important pour la musique dite mainstream américaine, parce que il avait vraiment beaucoup d'audace et une culture complètement éclatée qui pouvait aller aussi bien de Stravinsky, à Miloš Rosa, son professeur. C'est Jerry Goldsmith. Donc il a fait La Planète des Singes, qui peut être considéré au début, en tout cas, comme, ou même tout le long, comme un survival aussi. Enfin, il a fait beaucoup de BO pour les films de Joe Dante, donc il passait du coq à l'âne, mais aussi il a fait L'Homme de Bornéo, qui est quelque part dans sa fin un survival de Robert Mulligan avec Rock Hudson. Enfin, il a fait énormément de bandes-sons, et donc je suis content qu'on puisse entendre sa musique.
Alors on écoute Alien. Je précise qu'il est 16h passé et que l'émission devrait s'arrêter, mais comme nous avons pris bien une demi-heure de retard au début, eh bien on va poursuivre, puisque l'émission Sortir du colonialisme n'a pas lieu cette semaine. Vous les retrouverez la semaine prochaine. Et on écoute un extrait de la bande originale de Alien. Voilà, les oreilles libres sur Radio Libertaire avec Derek Wolfenden qui nous parle du survival. On vient d'écouter un extrait de la bande originale de de Alien. Alors Alien, c'est pas vraiment un animal, c'est une bébête, on va dire, mais c'est pas vraiment un animal. Parmi les thèmes, alors on va pas pouvoir tous les survoler, hein, les thèmes que tu nous avais proposés, mais peut-être l'homme, cet animal, moi ça m'intéresse.
Alors, l'alien, c'est quand même le fantasme du corps parfait. Donc, ouais. Des fois, nous, pour créer des choses, on va s'influencer des animaux, quoi. Et voilà, ouais. Ce qui est génial avec Alien, c'est une pure création imaginée, hybride de toutes nos peurs. Mmh. Donc, de plein d'animaux différents. Ça peut être, je sais pas, le scorpion, le serpent, enfin.
La fourmi.
Ça peut être, ouais, le truc qui fourmille aussi dans le noir, j'en sais rien. Enfin, selon les phobies,
aussi à
quoi.
Un phallus, quand même.
Et ouais, voilà, mais en plus, je l'avais mis dans une petite partie qui s'appelle l'enfer est sexuel. Bon, peut-être qu'on va peut-être pas. Là, comme on est dans l'animal, peut-être que je rebondirai après dessus. Mais c'est juste pour dire que l'homme est un loup pour l'homme et que le survival aime beaucoup jouer sur cette formule-là, quoi.
Ça, c'est les gens de droite qui disent ça, l'homme est un loup pour l'homme. Moi, je dirais plutôt que le loup est un homme pour le loup. Mais bon, ça, c'est personnel.
Ouais, mais après, c'est dans l'histoire, enfin, il y en a qui récupèrent beaucoup plus une phrase et c'est dommage que cette phrase, elle soit tout d'un coup étiquetée genre de droite, alors qu'à la base, cette phrase...
Elle cautionne pas mal d'individualisme, au sens où je marche sur la gueule des autres, quoi.
Oui, mais après, moi, je prends juste la phrase, comment elle est là, et pour moi, c'est juste une phrase qui est pessimiste, c'est tout. Enfin, je vois juste une forme de pessimisme qui ne va pas plus loin que ça, quoi. Mmh.
C'est Hobbes.
C'est Hobbes, ouais.
Ah, je sais pas ça. Ouais.
Et donc voilà, c'est par exemple, il y a la proie nue, quoi, ou même Apocalypto, enfin, qui est donc la proie nue, c'est, on va le montrer, donc je répète l'info que j'ai dit un peu vite tout à l'heure, donc c'est au Shakirai,
au
72 rue Riquet, donc dans le 18e à Paris, métro Max Dormois, donc c'est ce dimanche là, donc à 20h. Il y aura plein de pépites, etc. Donc cette projection, c'est grâce à l'association Curie Vavard qu'elle peut se faire.
Ouais.
Et donc voilà, il sera montré La proie nue de Cornel White, qui est un acteur justement hollywoodien. Et comme Mel Gibson, c'est intéressant, c'est un peu le Mel Gibson des années 60, il a un regard très violent, très abrupt sur, par rapport à ses films, que ce soit un film de guerre... ou un film apocalyptique comme No Blade of Grass. Il a vraiment un regard très noir, très violent, qui annonce les années 70. Mmh. Donc ça, c'est pour Yves-Marie, en tout cas, et moi, c'est vraiment un cinéaste qu'on a découvert cette année et qu'on aime vraiment beaucoup. Et il est, en plus, il a une certaine franchise dans son propos. C'est, pour moi, c'est pas du tout un cinéaste de droite. Peut-être que Mel Gibson, oui. Mais en tout cas, pour le cas de Cornel White, je pense pas. C'est vraiment... une logique de lui, c'est un colon, il est en Afrique, dans la savane, il tue des animaux, des éléphants, voilà, parce qu'il fait, il mène des safaris, etc.
Ouais.
Et ensuite, parce qu'il paye pas un tribut à une tribu africaine,
ouais.
Il se fait donc en gros malmener lui et son safari, et il doit survivre. On lui laisse quand même une chance, qui est inspirée donc du jugement de la flèche chez les Sioux indiens, sauf que là on est en Afrique. Et parce que donc c'est une variation d'un vrai fait divers qui s'est passé au début du 19e siècle, l'affaire John Colter, où c'était un homme pour survivre qui devait courir pour fuir ses assaillants, quoi. Voilà. Mm-hmm. Et donc on remplace les Indiens par cette tribu africaine. Et ce qui est très émouvant dans le film, c'est qu'au fur et à mesure que les Africains y meurent, pas tous, mais il y a vraiment, c'est beaucoup plus eux qui sont finalement traités que lui. Lui, il est toujours un homme qui court.
Ouais.
Voilà, il fuit quelque chose, c'est une bête. Mais vraiment, il devient la bête qu'il pourchassait au début du film.
Ouais.
Alors que les Africains, ils sont tristes, ils sont horrifiés, ils sont en colère parce qu'au fur et à mesure, ils perdent leurs proches, leur famille, on sait pas trop, mais ça pourrait être leurs proches ou enfin, en tout cas, c'est des proches, c'est sûr.
Mmh.
Et même la musique, chose étonnante, c'est que des percussions africaines. Et elles sont super bien utilisées parce que ça devient réellement le rythme cardiaque. Mais aussi bien du protagoniste qui court, donc qui est blanc, en anti-Tarzan, il est vraiment, c'est un anti-Tarzan, mais aussi bien aussi ceux qui lui coursent le derrière, quoi, vraiment.
Ouais.
Donc ça devient un rythme cardiaque, et c'est vraiment oppressant, et c'est démentiel, quoi. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, le grand éditeur de DVD anglo-saxon Criterion l'a sorti avec des très bons bonus, c'est parce que voilà, c'est un film qu'il faut vraiment redécouvrir de toute urgence.
Donc ça,
mais par contre, le DVD, on le trouve pas en France, c'est donc pour ça qu'il faut aller au Shakirai.
Merci.
Donc ça oui, d'accord, bah oui, donc c'est dimanche.
Voilà, c'est dimanche, ce dimanche-là, c'est à 20h, en plus, si vous venez tôt, vous pourrez assister au marché de Noël, voilà.
Ah, bah oui.
On en a parlé tout à l'heure.
Ouais, bah c'est bien. Ouais. Et par contre,
tu passes aussi un film de Yann Vangmeyer, genre.
Ouais. Est-ce que tu... Oh, c'est vrai ça. Ouais. Est-ce que tu peux compléter un petit peu le programme, nous dire ce qu'on va voir d'autre?
Alors, ce qu'on va voir d'autre, c'est un film génial de Chris Oakley que Yves Marie et moi, on avait découvert au Festival des cinémas différents il y a maintenant 2 ans. Ça s'appelle Révision.
Ouais.
Alors, c'est du found footage très graphique, très formel.
Found footage, allez, explique.
Alors, found footage, c'est détournement d'images préexistantes, voilà, mais détournées de leur usage premier. Et là, en l'occurrence, c'est des films de... C'est des images de guerre, mais qui ne sont pas tant détournées que ça, en fait. C'est juste qu'elles sont trafiquées. Mmh. Mais c'est, je vais pas en dire plus, il faut vraiment le voir, c'est, enfin pour nous c'est vraiment un chef-d'œuvre expérimental et il faut vraiment le voir, c'est vraiment une expérience quoi. Ensuite il y a un extrait du film de Cornel White qui s'appelle Terre Brûlée, donc Cornel White étant le réalisateur du long métrage qu'on va montrer qui est La Proie Nue. Ouais. Donc Terre Brûlée c'est un film qu'il a fait 4 ans après et c'est un film... apocalyptique quoi, vraiment c'est la... Voilà, c'est sur une famille qui pour survivre devient sans pitié envers son entourage. Donc il exprime vraiment la vraie politique américaine liée à la famille, de comment ils sont, la cruauté mise à l'épreuve quoi, voilà.
Ouais. Alors précisons, tu parles de film évidemment, mais ce sont des courts métrages. Hein.
Alors là c'est un extrait, Terre Brûlée c'est un extrait, Révision c'est le court métrage en entier expérimental. Ouais. Alors Qui a trop faim, c'est mon Tex Avery préféré. Tiens. C'est deux buzards affamés qui essayent de s'entre-dévorer pendant tout le long.
Ah oui.
Et c'est vraiment génial parce que autant il y a Bip Bip le coyote où c'est 1 minute, il essaye de tuer l'un ou l'autre, ça dure juste 1 minute 30 secondes pour être gentil. Là c'est toutes les secondes, ça n'arrête pas entre les deux. Voilà. C'est extraordinaire, donc il y a un rythme frénétique, une violence où on rit à la fois de bon cœur mais aussi on rit un peu nerveux.
Ouais.
Et donc pour moi c'est vraiment un Tex Avery étonnant, donc de 43. Ensuite je vais montrer un film qui s'appelle Nourriture, Jidlo, alors film tchèque de Jan Zweimeyer.
Excellent.
Et c'est un film qui d'ailleurs il aurait dû faire dans les années 70 pendant la période de normalisation communiste.
Ah oui.
Mais comme le pouvoir en place avait, le pouvoir en place qu'ils critiquaient avait détecté dans le scénario le portrait caricatural du film quoi.
Du pouvoir. C'est un film en 3 parties.
Voilà.
Si je me souviens bien.
Ouais.
Ouais, c'est excellent ça. Ouais.
Donc il y a c'est les 3 repas, déjeuner, dîner et souper. Voilà.
Ah oui.
Et ensuite, je vais montrer un extrait des Chasses du Comte Zaroff, qui est quand même le film, on va dire, inaugural pour le survival, comme on a essayé un petit peu maladroitement de le dire, mais on l'a quand même dit plus ou moins, par rapport à la question du fantastique. Il y a aussi la question sexuelle que j'ai pas mentionnée, mais qui est très importante dans les années 30, parce qu'au milieu des années 30, il y a le Codex qui va arriver. Et que là, le Codex, donc c'est un code de censure où... on va dire, on pourra plus montrer une certaine violence qui était déjà présente dans les films sur la prohibition ou des films sur l'adultère, etc. C'est plus possible, ou il faudra sinon vraiment filtrer aussi bien les images que les scénarios. Et voilà, dans Les Chasses du Comte Zaroff, il y a vraiment du désir au féminin, on le voit, ou au masculin. Voilà, l'enjeu aussi, pour l'un ou pour l'autre, c'est la femme aussi. Ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est très important dans Les Chasses du Comte Zaroff. Et c'est la sexualité de cette femme qui est Fairway, qui joue aussi dans King Kong, et qui est magnifique. C'est la figure vraiment... comme Claudette Colbert, ça on ne l'a pas dit, mais dans Four Frightened People, donc c'est de Cecil B. 2000, c'est un autre film important pour le survival, parce que c'est les origines, donc tourné dans les années 30, et là pareil au niveau de la sexualité débridée de cette comédienne d'origine un peu française, c'est vraiment, c'est une question, la question sexuelle est très très importante dans les années 30, mais même jusqu'à l'absence dans La Patrouille Perdue, comme on n'en a pas du tout parlé, c'est que des mecs, ou même dans Predator, en fait, il crée des couples dégénérés. Et ça, c'est intéressant dans un film qui pourrait être de droite et pas tant que ça non plus, voilà. Parce que là, il se fout littéralement de la gueule quand même de l'armée. Hein.
Ouais.
C'est à un moment donné, il fait même un montage, alors que c'est Mike Tiernan, façon l'agence Tourisque. Quand il y a les hommes qui pénètrent le camp des gars qui doivent alpaguer, c'est vraiment des montages à l'agence Tourisque, la série, j'entends. Et ensuite, on va montrer la bande-annonce de Surviving the Game, donc le SDF dont j'avais dit, comme dans Chasse à l'homme, qui se fait pour chasser. Voilà, par justement des gens d'extrême droite.
Ça, c'est un film relativement récent, en fait, c'est 94.
Ouais, et c'est la même année ou une année après, je crois, la Chasse à l'homme, Hard Target de John Woo, donc avec une figure très sociale, plus ou moins de gauche que Jou Van Damme, qui n'est pas spécialement crédible dans le film, sauf quand il lève la jambe, mais... Et sinon, il y a Animali Criminali. Alors ça, c'est un film... Alors c'est vraiment une variation trash des Fables de La Fontaine. Et c'est en fait une adaptation ironique des écrits de Cesare Lombroso. Donc c'était un criminologue raciste qui fit l'objet d'un autre film que réalisèrent le couple en 76. Ouais. Donc c'est les Yervant Djanikian et Angela Ricci-Lucci. Ouais. Et c'est aussi et surtout un détournement d'images d'archives filmées à l'origine par Luca Comerio pour valoriser l'idéologie fasciste. Donc voilà, quand même, comme quoi le survival aussi... Voilà, on peut, il faut aussi parler cet écart aussi qui peut y avoir.
D'accord.
Et enfin, alors là, pour Anu, voilà, pour finir en beauté cette séance de Cornel White, donc de 66, un film qui fait 96 minutes. Et la musique, ce qui est intéressant à noter, c'est a été supervisée par l'ethnomusicologue Andrew Tracé, pionnier avec son père de l'étude de la musique africaine à travers le monde. Mmh. Et il faut savoir qu'on est encore dans les années 60, on est encore dans cet âge d'or, même si c'est la fin de cet âge d'or, et on est quand même dans les gros orchestres. Et là, de mettre que des percus, je trouve ça assez étonnant.
Bah, on écoute un petit peu d'un extrait de La Proie Nue.
Avec plaisir.
Voilà, ben, écoutez, on va faire les annonces. Alors, je signale que tous les dimanches de décembre, maintenant, la librairie Publico sera ouverte. Voilà, et sinon, demain, samedi 13 décembre, crise, analyse, libertaire, comprendre pour lutter, c'est à 16h30. C'est à, donc, à la librairie Publico, je vous donne un petit peu le petit résumé du truc, rencontre et débat avec des membres de la coordination des groupes anarchistes autour de la publication de leur brochure « Crise, analyse libertaire, comprendre pour lutter » aux éditions Bras Zéro Social. L'objectif de cet ouvrage est de proposer une analyse de la crise et de ses conséquences qui soit accessible à toutes et tous pour permettre à chacun, chacune de se doter d'outils pour décrypter le discours dominant sans se laisser embobiner. Nous pensons que donner une lecture libertaire de ce qui se passe par des personnes qui vivent aussi cette crise est très important pour encourager à agir et lutter dans une perspective émancipatrice. Il nous semble aussi que s'intéresser à ces questions pose de fait l'urgence de rompre avec le capitalisme et soulève la nécessité révolutionnaire sur des bases libertaires. Voilà, donc c'est demain à 16h30 à la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Et alors, mercredi 17 décembre, au même endroit, alimentation, agriculture et liberté, c'est à 19h30, le mercredi 17 décembre. L'être humain occidental est largement un être hors sol, à notre avis, sans lien à la Terre. Il est inutile de penser la liberté et donc l'anarchie. Anarchie, liberté, pas de liberté, le ventre vide. Pas de ventre plein sans alimentation, pas d'alimentation sans agriculture. Pour autant, agriculture ne veut pas dire anarchie. Il existe toutes sortes d'agricultures qui sont comprises entre agriculture industrielle liberticide et paysannerie autonome. Ces deux extrêmes, entre guillemets, ne sont pas compatibles et ne peuvent pas cohabiter. En présence de Sylvia Pérez Vitoria, économiste, sociologue et documentariste, à l'initiative du groupe Poulaille et de deux paysans du groupe Le Ferment, groupe de la Fédération anarchiste. Voilà, mercredi 17 décembre à 19h30 au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, la librairie Publico. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous annoncer? On rappelle donc, Derek, la séance du Kino Club.
Donc le dimanche 14 décembre, donc c'est ce dimanche-là, donc à 20h pétante, donc autour du survival, donc avec plein de films dont le Sven Meyer, Tex Avery, mais surtout La Proie Nue, donc film plus rare à voir quand même, de Cornel Wilde, donc film américain de 66. Et voilà, vous êtes les très bienvenus pour assister à cette séance ce dimanche.
Alors, j'ai pas dit, c'est bien sûr gratuit à la librairie Monde Libertaire. Qu'en est-il pour le Chakirai?
Alors, c'est prix libre. Les gens donnent ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent. Et on n'est pas regardant s'ils peuvent pas donner d'argent, mais au moins qu'ils disent bonjour.
D'accord, merci beaucoup.
Oui, il y a aussi Théo Acola qu'on a reçu il y a deux ou trois semaines qui passe en concert ce soir au Point Éphémère.
Ah, mais très bien. Voilà. Ouais. Alors, la semaine prochaine, nous recevrons Dominique Repeco pour une émission consacrée à son groupe, un de ses groupes, une de ses formations, 60 étages. Et ceci juste avant la soirée qui sera consacrée vendredi prochain aux Instants Chavirés, soirée consacrée à la revue Revue et Corrigée. Dominique Repeco donc dans nos studios la semaine prochaine. Merci beaucoup Derek pour cet exposé, merci. Ce brillant exposé. Alors je vois toutes les notes que tu as devant toi, c'est assez incroyable. La table de Radio Libertaire est absolument remplie de notes. Tu vas écrire un bouquin avec tout ça, non?
Ah, peut-être, j'en sais rien, on verra.
Bon, écoute. Merci beaucoup, et puis à la prochaine fois.
Merci.
Et puis à nos auditeurs, salut, à la semaine prochaine. On se quitte avec... qu'est-ce que c'est que tu nous proposes?
The Thing, de Carpenter et Morricone, en fait. C'est vraiment une association des deux pour faire la BO du film de Carpenter de début des années 80, je crois.
Voilà. Et Ennio Morricone pour nous quitter. Allez, salut! Voilà, dans une heure à 17h30, nos amis Guy Rabat pour Radio Esperanto. Et maintenant, un petit blanc avant que l'ordinateur reprenne le relais pour de la musique pendant une heure. Allez, ciao.